Yes! Hey, merci d'être là à la toute première émission de Pivot avec Pino. Très heureux. Aujourd'hui, j'ai un invité que je courraillais depuis très longtemps. Je suis vraiment heureux qu'il ait accepté d'être mon premier invité pour mon podcast. Et pour les gens qui se questionnent, Pivot avec Pino, c'est quoi ça? C'est que moi, j'étais un fan de Bernard Pivot. Là, je te mentirais en disant j'ai écouté son émission Bouillon de culture ou apostrophe, mais j'étais un fan de ses 10 questions qui ont été complètement reprises dans l'émission Actor Studio. Je les ai complètement toutes reprises aussi pour les mettre dans Pivot avec Pino. Donc aujourd'hui, j'ai l'immense privilège de recevoir quelqu'un que quand tu le vois à TV, il te fait sourire, c'est une boule d'énergie. T'as le goût d'être son ami, t'as le goût de le prendre dans tes bras quand tu le vois. Mesdames, messieurs, très heureux de vous présenter le seul, l'unique, Simon Boulris! C'est donc bien fin d'avoir accepté d'être là avec moi aujourd'hui.
Hey, ça fait
Ça
tellement plaisir.
me touche quand je t'ai écrit sur Facebook, t'as fait ben oui, avec plaisir, tout ça. Je suis très, très heureux de t'avoir avec moi. Puis c'est vrai ce que je dis, hein. Moi, là, où j'ai, tu sais, je te connaissais un petit peu là, pour t'avoir vu à quelques reprises dans événements ici et là, mais c'est vraiment, tu sais, j'ai écrit mon podcast, j'ai brainstormé la patente, j'ai fait faire l'animation, puis je me suis dit, je vais lancer ça le 1er février. Puis là, j'écoutais pendant le jour de l'an, puis là, je t'ai vu en direct de l'univers, puis j'ai fait, oh mon Dieu, il faut vraiment que ça soit lui, mon premier invité. C'était parfait. Quand France Beaudoin t'a pointé en disant, Simon, t'essaies de toujours voir le beau dans tout. Ça, là, ça m'a. T'es vraiment comme ça.
Je pense que oui. Je pense que j'ai une nature qui est douée. Je suis douée pour l'émerveillement.
Ah, c'est merveilleux. Puis tu réussis à trouver du beau dans chaque jour, même malgré la pandémie, mettons?
Oui, quand même. Mais moi, il faut dire que je me contente de peu en général. Tu sais, je ne suis pas quelqu'un qui a beaucoup d'ambition ni qui a de grandes aspirations. Mais donc, dans le petit, je suis souvent heureux. Dans les petites choses.
Mais mon Dieu, tu dis, j'ai pas de grandes aspirations, mais n'empêche que tout ce que tu touches semble devenir de l'or. Puis quand même, là. Hey, oh, TV, radio, chronique, on te voit partout, c'est carré, là.
Ben, je suis un touche-à-tout. Je me suis toujours défini comme ça. J'aime essayer plein de choses. Puis j'aime dire oui. En vrai, j'aime cette posture-là d'être dans OK, je me mets en danger, je ne sais pas dans quoi je me lance. Je suis un gars willing dans la vie.
Bien, tu dis ça, j'aime me mettre en danger. Je ne sais pas si ça va être ça dont tu vas parler, mais est-ce que, mettons, ça serait quoi notre lien de connaissance, Simon? Comment tu te rappelles-tu que c'est vous?
Écoute, ben moi, je te connais depuis longtemps, évidemment, par la télé, mais le jour où on a vraiment eu un vrai contact, c'était quand tu m'as piégé à l'émission Coup de cochon.
Ouais.
Écoute, pour vrai, là, j'y rêve encore. Je rêve encore à cette journée-là qui m'a tétanisé. Juste pour mettre en contexte, là, c'est mon ami Debbie Lynch-White qui me piégeait, qui m'avait demandé, pourrais-tu venir danser avec moi? J'ai proposé que j'amenais un ami à un événement de danse et je ne savais pas trop c'était quoi. Moi, je t'ai dit que je dis oui. Alors, je dis, ben oui,
Hey,
Debbie.
c'est ton willingness.
Elle n'avait même pas à m'expliquer c'est quoi. Je fais, ben oui, mais je dis, je ne peux pas me rendre là-bas. Fait qu'elle vient me chercher en voiture. Quand même chercher en voiture, et là, t'es là, et t'es fâché de ma présence parce que je sais que j'aime beaucoup
C'est bon,
danser.
dis-le. En fait, t'arrives là-bas, puis le pire, c'est que nous, ils nous disent ça, hey, habillez-vous, là, super chic. Toi, t'arrives, t'es genre un chandail de Tweety Bird en short de jogging, tu dis, hey, moi, je m'en fous, je suis venu danser, je suis libre. Et là, au début, je me dis, hey, mais tu sais, peut-être, j'ai quand même fait les dieux de la danse, je vais peut-être réussir quand même, tu sais, même si je sais que dans le but de te piéger, il faut que tu sois vraiment meilleur. Mais là, tu as commencé à t'étirer, puis j'ai fait, OK, non, il y a vraiment une base dans la danse, là. Les grandes pointes avec les pieds qui t'étiraient tes jambes, j'étais comme, OK, là, c'est. Il y avait un faux metteur en scène qui était là, puis qui venait me filmer, mais finalement, il te filmait tout le temps, puis là, moi, je pétais un plomb. C'était. Puis le pire, c'est qu'on était supposé faire deux pranks là-dedans. C'était supposé être malaisant, la danse over sexy. Mais c'est comme si, en maintenant, en fait, on accepte. Fait que là, on faisait les gestes trop sexy, puis c'était juste moi fâché le prank. Mais il y avait dans plusieurs niveaux.
Mais tu sais, j'avais le visage très près de la poitrine de Debbie. Puis tu sais, Debbie, elle pensait que ça me bouleverserait ou ça me.
Ouais.
Puis moi, encore une fois, ma willness m'a permis, je suis tellement willing que j'ai fait parfait, je me mets la tête là-dedans. C'était des mouvements un peu ridicules. Tu sais, Debbie est quand même à une bonne charpente et j'étais un peu plus frêle qu'elle, donc je devais la traîner. C'était comme un peu
Ouais.
risible. Mais moi, j'aimais ça. Moi, j'aime ça, ce genre de. Je trouvais même pas ça. Je pensais pas que c'était un guet-apens, là. Je pensais juste que c'était une chorégraphie, puis je voulais la rendre le mieux que je pouvais. Puis
Ah oui, c'est vraiment parti.
j'étais sur le bord de te voler ta job. C'était ça le concept, là. C'est que moi, on voulait me prendre pour un espèce de pilote avant toi. Puis t'étais fâché. Puis je pensais vraiment que t'étais fâché pour vrai. Puis j'étais tellement désolé. Puis en même temps, je me disais, mais là, qu'est-ce que je dois faire à être moins bon? Puis là, le début, elle dit, sois moins bon ou sois moins bon. Puis mon problème, c'est que j'aime tellement ça torcher dans la vie. Là. J'aime tellement être bon. Puis j'ai de la misère à tirer vers le bas. Je veux toujours au contraire. Puis c'est pas pour faire chier les autres, je pense pas. C'est juste que j'aime ça. Tu sais, m'appliquer. J'étais un gars qui s'applique dans la vie.
Je le voyais que tu voulais pas être blessant. Tu sais, quand je suis allé voir, puis j'ai dit, mais toi, tu veux-tu le faire, le show de danse? Et tu sais, t'as... Non, mais c'est pas... C'est juste... Non, mais c'est... j'aime ça, mais pas toi, tu voler ta place. Ah, c'était bon, là. Mais tu sais quoi, Simon? Le pire, là, c'est que c'est même pas la première fois qu'on s'est vu. La première fois qu'on s'est vu, là, on était ensemble à l'audition de Mesmer. Ça se peut que toi, tu t'en rappelles pas.
Mais non, je m'en rappelle.
Parce que quand tu dis que t'es willing à tout, t'as vraiment pogné, t'étais un candidat impeccable. Je sais pas après ça, par la suite, si t'as fait l'émission.
Mais vraiment, non. Écoute, ils m'ont, j'étais peut-être pas assez... mais pourtant, il me semble que j'avais vraiment... Mais
attends, t'étais assez réceptif. Oui.
Ouais.
Moi, je me rappelle, il y a, tu sais, genre, il dit, vous collez vos doigts, tac, t'avais les doigts collés, t'étais endormi, il a claqué, puis là... Moi, tout ce que je me souviens, c'était il y avait nous, puis il y avait les filles de Passepartout, dont Gabrielle Fontaine, qui a mordu, mais comme une canne. Elle a chanté Let It Go au complet, en français et en anglais. Mais tous, ça m'avait fait rire parce qu'ils disaient « t'as un cheveu ». Puis tout le long, tu sais, nous regardais un peu, puis mais c'est un très long cheveu qui sortait tout le temps. Tu étais comme « mais voyons, là, le monde a arrêté de me regarder ». Il avait vraiment mordu. C'est la première fois, puis c'est là, j'ai fait… Il a tellement l'air fin dans son subconscient, il doit être fin dans la vraie vie.
Ah, oh, ça, c'est drôle, fin dans son subconscient.
Ouais, ouais. Mais... C'est une bonne personne à tous les niveaux dans ce cas-là. Simon, on part ça. C'est quoi ton mot préféré?
Oh mon Dieu! Écoute, j'en ai beaucoup. Moi, j'aime beaucoup les mots en V. Le V, je trouve ça sensuel. Le mot vélocité. Vélocité.
Ah oh, oui!
Ah! Je trouve ça beau, je trouve que... Puis l'écrire aussi, puis le dire, vélocité. Vivacité aussi, ça me plaît. Vivifiant. Ah, le mot vivifiant. Je trouve que c'est comme c'est un mot qui secoue, vivifiant. Ouais. Donc, vélocité et vivifiant.
Hey, on dirait que tu viens de me faire changer d'avis. Moi, ça a toujours été pupitre. J'ai toujours aimé le son de pupitre, mais là, vélocité. C'est vrai que vélocité, c'est le fun, c'est vitesse, c'est mouvement. J'aime beaucoup ça. Et là, on va complètement l'opposé. Le mot que tu détestes le plus entendre ou prononcer ou que tu n'aimes pas.
Mais je sais qu'il y a des mots controversés, tu sais, comme le mot scrotum ou. Moi, j'ai aucun problème avec le mot scrotum. Il y a peu de mots que j'aime pas, en fait. Même j'aime beaucoup les mots québécois, tu sais, des mots comme débarbouillette, qui n'est pas sexy a priori. Je trouve ça beau. Moi, j'aime la swing puis l'humilité d'une débarbouillette.
L'humilité! Ouais, c'est vrai qu'une débarbouillette, c'est beaucoup d'humilité là-dedans.
On est beaucoup d'humilité. Écoute, je pense pas qu'il y a de mots qui me... Il y a des mots que je trouve surutilisés. Des adjectifs un peu trop passe-partout. Tu sais, mettons le mot joli ou beau, je trouve ça un peu ennuyant. J'aime souvent trouver le mot le plus précis. Mais il y a pas de mots que j'ai envie de bannir.
Ah, t'es comme Antidote. Antidote, quand tu écris un texte, il dit « Vous avez 36 mots faibles, Guillaume. » Hey, sérieux, va chier, Antidote. Va coûter 117$, là, c'est pas pour que tu m'insultes. »
On appelle ça des occurrences. C'est quand le mot est répété, comme ça, on appelle ça « Ah, il y a une occurrence trop présente, donc on tente de réduire le plus possible. » Mais moi, j'aime beaucoup, beaucoup trouver le mot le plus juste.
Ah, j'aime ça. Puis j'aime ça. On dirait en disant ce que tu as dit, des mots qui sont surutilisés. Ma blonde a dit souvent ça. Elle a dit, hey, ce terme-là est galvaudé, puis c'est pas le bon terme. Là.
Ouais.
Tu vois, moi, je veux juste dire que la semaine dernière, j'ai dit à mon auteur, je dis, ça, je te le dis, mais tu peux pas le dire. Ça, c'est un secret de polichinelle. Et j'ai appris que dans le fond, un secret de polichinelle, c'est quelque chose que tout le monde sait. C'est pas précieux, un secret de polichinelle. Polichinelle, c'est un nouveau terme que j'ai appris, mais Antidote, on aurait dit, Guillaume, c'est pas bon ta tournure de phrase. Là.
Fait que t'as dit l'inverse.
Oh, exactement. Ça fait des années que je dis l'inverse. Là. Moi, ça fait longtemps que je me trouve brillant en disant un secret de polichinelle. Fait que tu sais, dites pas ça à personne.
Fait que... oh, c'est exquis.
C'est quoi ta dépendance ou ta. c'est pas obligé d'être drogue, parce que Bernard Pivot disait votre drogue favorite, mais ta dépendance ou peu importe la chose. Hey, que...
Moi, là, j'ai l'esprit un peu tard. Est-ce que je peux revenir sur l'autre? Je vais juste dire un autre
mot.
Oui,
sans problème.
Quel mot autre qui me cause problème? Parce que être l'autre de la soirée, oui, c'est à la fois la personne qui reçoit et la personne qui reçut. Puis ça me fourre. C'est un mot qui m'a toujours fourré. J'ai envie qu'il prenne une décision. Ouais, être l'autre. Il y a comme une ambiguïté qui me laisse tout le temps perplexe. Donc, peut-être que j'irais avec ce mot-là. Être l'autre, tu es mon autre, tu me reçois, mais en même temps, je suis reçu. Donc, les deux, on est l'autre de l'autre.
OK, puis autre, puis hôtesse, c'est vraiment juste le féminin, c'est pas qu'il y a l'autre et l'hôtesse. Ah, ouais. Mon Dieu!
Être l'hôtesse, c'est autant la personne qui est reçue que la personne qui reçoit. Je suis pas contre le principe, c'est juste que ça me fourre. C'est tout.
Avec la table d'hôte, est-ce que c'est la table que nous, on va manger ou c'est la table que l'autre a préparée? C'est assez mêlant, là, tu me...
C'est les deux.
Je suis confus à tellement de niveaux. Mais non, pas...
Là, ta deuxième, c'était les dépendances, hein, c'est ça?
Mais dépendance, parce que ça dit votre drogue favorite, mais tu sais, c'est parce que, mettons, moi, ça serait le chocolat. Fait que c'est vraiment dépendance, caféine. Ça peut être autant un objet, ça peut être ton téléphone, ça peut... Y a-t-il quelque chose dont tu es dépendant ou que tu utilises beaucoup trop ou que tu consommes trop?
Ben, premièrement, juste à la base, moi, je prends pas d'alcool, je fume pas, je prends pas de café, donc pas de drogue. Tu sais, j'étais un peu verre d'eau. Je bois tout le temps. Tu sais, avant de te parler, je me suis préparé mon grand verre d'eau. Tu sais, c'est pas la pire drogue, c'est pas la pire drogue, on s'entend. Cling, cling. Des dépendances.
Hey, mais ça veut dire que tu t'émerveilles de tout à jeun, et à c'est jeun. Merveilleux, sinon.
J'ai même déjà déboulé des marches par osmose, parce que j'étais avec des gens sous. Alors, par grande empathie, j'ai déboulé les marches avec eux. J'ai fait « Oh, de la merde, OK! »
Hey, sérieusement, là, je viens en 3 minutes, j'ai entendu des termes que je n'avais pas entendus depuis ma bio de secondaire 1. J'ai déboulé les marches par osmose. Là, c'est clair qu'il y a des gens qui saignent du nez en ce moment. Qu'est-ce qu'ils font? Il est comme une chip, il a pris de l'eau, il est devenu mou. Mais c'est un peu ça, mais en déboulant les marches avec ses amis. Fait que, hey, osmose, c'est un nouveau terme que j'aime beaucoup aussi.
Osmose. Que, ben écoute, comme dépendance, peut-être un peu mon iPhone. J'avoue que moi, j'ai été récalcitrant. Je trouvais ça j'étais pas séduit d'emblée à l'idée d'avoir un cellulaire. Donc, j'ai été longtemps, je me tenais loin de ça. Puis quand j'ai eu mon premier cellulaire, j'ai réalisé, je suis tombé dans une forme de dépendance, là. Mais je suis quand même capable de m'en éloigner. Mais une vraie dépendance, là, je pense qu'il y a le jeu Dr. Mario. Tu sais, le vieux Nintendo, là.
Oui, vas-y, je vais te dire.
Je joue à tous les jours. C'est comme un moment avec mon chum où j'ai envie de décrocher, puis on joue 3 parties. Et si je gagne pas, je deviens immensément colérique, je deviens un monstre, en fait, je suis horrible. Donc, je pense que c'est ma pire dépendance, c'est jouer à Dr. Mario. Je suis vraiment... Même je rêve à ça.
Ah, mon Dieu! Ma mère qui, d'ailleurs, capote sur toi, là, tu sais, quand j'ai dit que j'allais te recevoir, elle dit j'ai tous ces livres, je viens de lire, au fond, pleure au fond des mascottes, tu sais, dis-moi que c'est bon, fait que je te transfère le message.
Merci,
ma mère est une accro de Dr. Mario, et quand on était petit, elle jouait c'est la seule affaire qu'elle, tu sais, elle nous empêchait, mettons, elle, si elle prenait le Nintendo, c'était pour jouer à Dr. Mario. Elle a tellement joué que notre télé à écran cathodique avait les taches de Dr. Mario. Fait qu'il y avait les 2 boîtes de pilules, puis le petit rond des virus qui tournent d'imprégné dans la télé. Même quand elle était fermée, on voyait que le soleil avait... Tu sais, comme quand t'enlèves un cadre chez les fumeurs, puis que...
Aïe! C'est tellement... Et ça, j'ai envie de l'utiliser dans une histoire. C'est tellement drôle que ça soit imprimé dans l'écran cathodique.
Ouais.
C'est fabuleux. J'aime tellement l'image du cadre, là.
Ouais, puis, ouais.
Guylaine Tremblay m'a conté quelque chose de super beau. Elle m'a dit que... Parce que son père, c'est un genre de marin. Tu sais, il travaillait sur les gros bateaux. Puis... Puis quand, mettons, ils recevaient les familles, quand ils accostaient, ils retiraient leurs affiches de Madame tout nu sur les murs. Puis donc, ça laissait des... donc, c'était un peu plus pâle. Puis Glenn avait demandé, elle était toute petite, elle a dit, pourquoi c'est plus pâle? Puis la mère de Glenn avait dit, ben, c'est normalement, c'est des affiches de Madame tout nu, mais là, ils les enlèvent quand... Puis elle avait dit ça sans aucun jugement. Tu sais, c'est des messieurs qui partent longtemps, ils ont besoin de Madame tout nu sur leurs murs.
Ouais,
ils ont bien beau comme anecdote. Puis ça me fait penser à un film, mais j'arrête après ça. Là,
non, vas-y, c'est ça le but.
Un film de Robert Lepage qui s'appelle Le Confessionnal, qui est un de mes films préférés, un film de 96. Dans le film, c'est un homme qui se dépatouille avec son héritage, avec ses ancêtres, et il retire donc tous les cadres et il repeint. Et à chaque fois qu'il repeint, peu importe la couleur qu'il repeint, là où il y avait des toiles, là où il y avait des photographies, c'est toujours d'une autre teinte, c'est toujours plus pâle, ça ne part jamais. C'est beau, hein, la symbolique de nos grands-parents, nos ancêtres, ça nous c'est toujours là. C'est pas délogeable. On peut pas effacer ça.
Ça m'a fait penser à, je sais pas si tu connais John Mulaney, mais c'est un humoriste américain qui explique qu'un de ses amis volait des photos de grands-parents dans les domiciles de ses amis. Puis le monde était comme, mais pourquoi tu fais ça? Parce que il dit, on peut jamais remplacer ça. Je trouve ça tellement de faire. C'est quand même méchant, mais c'est vrai qu'une vieille photo d'époque, t'as pas ça dans ton iPhone puis t'as fait printer. Là.
Ah, fait c'est que, beau.
Ouais, mais c'est beau, mais c'est complètement méchant.
Oui, c'est ça, méchant. Mais moi, souvent, je vais dans des... Ben, moins maintenant, là, mais à une autre époque, j'allais beaucoup dans les villages des valeurs puis des trucs comme ça, les sols d'église. Puis j'aimais acheter des œuvres, mettons, des pots, des natures mortes peintes par des Yvette, des Clémence, des... je trouve ça beau. J'en ai un ici, je vais te montrer. Je sais pas si
Vas-y.
Regarde, j'en ai un. Je pense que c'est Yvette. C'est vraiment beau. Parce que moi, je trouve ça joli. Je sais pas si tu vois.
Ah, mais oui, il est très beau. Ça me fait penser à chez mon grand-père. Nous, on avait un clown qui était mais tellement épais, la peinture, là, tu sais, qu'ils ont mis ça avec l'espèce de spatule. Là.
Oui.
Ça a dû sécher pendant comme 13 ans chez mon grand-père, mais on a des vieilles toiles. D'ailleurs, mon grand-père en a fait plein qu'on s'est tous séparés quand il est décédé, puis on est tous fiers d'avoir une vieille grange ou un pot de fleurs ou le fameux clown.
De Muriel Millard.
Non, c'était pas celui-là, mais oui. Simon, c'est quoi ton bruit ou ton son que tu aimes le plus entendre?
Dans mon appartement, j'aime beaucoup, beaucoup, dans l'intérieur de mon frigo, dans le ventre de mon frigo, il y a une possibilité d'avoir de l'eau. J'aime beaucoup ce son-là. Tu sais, le gulp, quand la succion de l'eau dans mon verre d'eau, c'est quelque chose que j'aime. Je pense que c'est un son.
Là, ça, sérieusement, je me disais, le bruit du vent dans les arbres. Non, le bruit du moteur, de la bulle d'air, de quand l'eau. Décidément, l'eau, c'est quelque chose, c'est vraiment ta dépendance. Là, on commence à le découvrir. Ouais. Osmose, un petit peu de. J'adore ça. OK, puis à l'opposé, le bruit que tu détestes entendre ou que t'insupportes?
Peut-être des trop gros moteurs. T'sais, ça m'a toujours angoissé une moto qui passe la nuit.
Oui.
Ou mon père aussi, il passait l'aspirateur très tôt le samedi matin quand j'étais adolescent. Puis il avait tendance à donner des coups contre la porte pour me réveiller. Ouais. Donc, ce genre de moteur-là, là,
ouais.
En fait, c'est beaucoup les affaires, t'sais, les motorisés, les tondeuses, motos. Moi, j'ai pas de permis de conduire, puis ça m'intéresse pas de conduire des machines. Fait que, tu sais, des tracteurs, tout ça, c'est pas quelque chose... Puis ni passer l'aspirateur, c'est pas quelque chose qui m'intéresse non plus. Donc, j'aime plus ces petits moteurs.
Les électros qui font du bruit. Hey, c'est drôle. C'est drôle. Mon frère est sourd, là. Et il est tombé sourd à l'âge d'un an et demi. Puis le dernier son qu'il se souvient, c'est le son du séchoir. Que nous, on se dit probablement parce que c'est mêlé aussi avec le vent. Fait que, tu sais, il devait pas... Mais c'est étrangement le son que j'ai le plus entendre. Ah. Le dernier qui se souvient, c'est un des sons. Un séchoir, si c'est pas moi qui sèche les cheveux, ça m'agresse au plus haut point d'entendre ça. Fait que oui, tout est bruit de machine.
Je comprends bien.
Je comprends bien également. Simon, là, on passe vraiment à un autre. Là, c'est du coq à l'âne. Est-ce que tu te souviens de ton premier deuil?
Oh! Écoute, j'ai vécu des deuils importants. J'ai perdu une de mes grand-mères il y a une dizaine d'années. D'ailleurs, j'étais en tournée de théâtre. J'étais assez loin. Je pouvais pas annuler la tournée. Là, on commençait la tournée de... C'était un mois d'une pièce de théâtre. Puis, donc, j'ai même pas pu aller aux funérailles. J'ai l'impression que ça m'a isolé, ça m'a éloigné. Allô, mon chum? Bonjour. Mon chum vient d'arriver.
Allô!
J'ai l'impression que j'ai comme pas vécu ce deuil-là pleinement. Mais mon deuil le plus clair, là, je l'ai vécu il y a pas longtemps. C'est le chat de mon amoureux. Donc, quand mon amoureux est venu vivre chez moi ici, à peu près 2-3 ans, il a amené son chat, dont j'étais allergique pourtant. Et malgré mon allergie pour ce chat-là, je l'ai beaucoup aimé. Il s'appelait Al Capone. Il était hyper gentil. C'était une petite crapule tellement gentille. Puis, c'est drôle, le deuil pour moi, j'ai compris c'était quoi le deuil quand on a perdu ce chat-là parce qu'il était très vieux, puis bon, on l'a fait piquer. Et après l'euthanasie, pendant des semaines qui ont suivi, tout me rappelait son absence. Puis c'est là que j'ai compris c'était quoi la mesure du deuil. C'était de j'échappais une cuillère, puis je disais, je vais le réveiller. C'est comme s'il était sur une chaise. Il dormait toujours sur la chaise à côté de moi ici, puis là, il n'est pas là. Ou une forme dans le lit. T'sais, souvent, il se mettait en dessous de la couverture. Donc, jamais je me serais lancé sur mon lit. Je savais qu'il pouvait être là à tout moment. Donc, une bosse en dessous du matelas, en dessous de la couverture, je me disais, c'est peut-être lui. Donc, tout m'a rappelé son absence pendant à peu près un mois et j'ai pleuré là, sans arrêt. Même qu'à un moment donné, je suis dans une conférence avec des enfants, puis je leur raconte que j'ai perdu mon chat. C'était comme à propos. Ils m'ont dit « Est-ce que vous avez un animal? » Puis j'ai pleuré devant moi, devant eux en Zoom. Là, j'ai fait « Ah, mais j'ai perdu mon chat il y a une semaine. » Puis les enfants étaient vraiment pleins de compassion. Ils me disaient « Oh mon Dieu, on comprend, on comprend. »
Hey, la perte d'un chat, là, honnêtement, moi, je pense que c'est la raison pourquoi je suis avec Anne-Elisabeth Bossé. J'y ai écrit pour lui demander si elle acceptait d'aller sur une date parce qu'on avait un ami en commun. Elle m'a dit « Oui, voici mon numéro de téléphone. » Et là, je ne l'ai pas appelé parce que dans cette semaine-là, j'ai perdu mon chat. J'étais tellement anéanti, j'ai dit « J'aurais pas de fun à aller sur une date. » Puis là, elle a dit à notre ami commun « Hey, je peux pas croire, j'ai donné mon numéro. » Je me suis comme livré à lui, puis il m'a jamais appelé. Puis là, je l'ai texté en disant « Hey, je suis désolé. » Puis là, on est allé sur une date, puis j'ai expliqué que je venais de perdre mon chat. Et j'ai pleuré sur notre première date en parlant de mon chat. Elle a dit que c'est ça qui nous a unis, de voir que derrière cette petite casquette-là, il y avait de la sensibilité.
Oh, j'aurais voulu sortir avec toi.
Simon, là, encore une fois, coq à l'âne, c'est quoi ton blasphème ou ton gros mot favori que tu utilises? C'est pas obligé d'être un de ceux de l'Église, là.
Ah, mais moi, j'adore sacré. Bon.
Oui?
Oui, parce que je pense que j'ai fait du rattrapage. Parce que quand j'étais jeune, je sacrais pas beaucoup. Mes parents sacraient constamment. C'était comme une... Même quand ils sont heureux, c'était comme une respiration. Puis j'ai toujours trouvé que ça avait de la swing. Puis j'aimais cette musicalité-là. Mais on dirait que je me permettais pas. Donc, quand je le faisais, c'était tellement rare que ça surprenait tout le monde quand je disais « écolisse ». C'était beaucoup des... Je transformais ça « cute ».« Écolisse ». Puis là, on dirait, j'ai comme pris goût. Puis j'arrête pas de m'en permettre de plus en plus. Puis là, depuis quelques années, je me suis rapprochée de Louise Latraverse. Puis tu le sais sans doute, Louise Latraverse est forte sur les sacres. Elle m'avait raconté à quel point que Janine Souto, pour elle, ça a été une délivrance quand elle a entendu « Et Christy! » Tu sais, quand elle dit des petits puis elle dit « Oh mon Dieu, les femmes peuvent sacrer! » Puis moi, en fait, je ne m'étais jamais octroyé la possibilité de sacrer comme ça aisément. Puis là, on dirait depuis 5 ans, j'aime ça sacré. Je suis pas rendu au stade où je sacre en public beaucoup.
Ouais.
Mais tu sais, dans l'intimité, je trouve ça fun, puis je trouve que ça ponctue. Donc, je trouve que ça a de la swing. Je trouve que j'ai toujours aimé la musicalité d'un sacre.
Est-ce que tu te souviens de ce qu'elle avait dit en direct de l'univers, Louise Latraverse?
L'amour, Chris.
On dirait que c'était une beauté avec le sac qui, tout s'agençait, c'était parfait.
Et moi, j'adore les oxymores. Je capote sur les oxymores. Donc, c'est quand on prend deux idées contraires qui créent un choc ensemble.
Ouais.
Ça m'a toujours plu, la surprise. Puis, en fait, je pense que tu le sais, en art, tout ce qu'on recherche, c'est l'effet de surprise. Et donc, l'oxymore, en soi, c'est la forme la plus brève pour créer la surprise. Un soleil glacé, tout tu fais, ben voyons. J'ai toujours... Mon roman qui a le mieux marché, il s'appelle « L'enfant mascara ». C'est pour moi un oxymore. On est dans la pureté, l'innocence et on est dans l'artifice collé à ça. J'aime ça, le chaos que ça crée.
C'est magnifique. Et puis d'ailleurs, je viens de me rappeler exactement la signification exacte du terme oxymore. J'aurais fait « Oui, je connais, c'est dans la grammaire », mais là, tu vois, en l'expliquant, tout est là. Et je salue les auditeurs qui font comme « Oh, merci d'avoir expliqué. » si on avait un nouveau billet de banque à sortir, qui est-ce qu'on devrait mettre dessus?
Ah, mon... Au Canada?
Au Canada, tu peux mettre qui tu veux. Mais si tu mettons, on peut faire au Canada puis dans tout le monde entier.
Écoute, et André, j'aurais envie de... Ben, au Canada, j'irais avec... Bon, premièrement, c'est sûr, ça serait une femme. Je trouve que j'ai vu dernièrement la possibilité de revamper les stations de métro avec des noms. Il y a presque juste... Je pense qu'il y a juste des hommes. C'est incroyable. Donc, ça serait vraiment d'alterner. Je suis complètement partisan de ça. Donc, c'est sûr que les billets de banque, je sortirais de la royauté allègrement. J'irais avec peut-être des écrivaines ou des journalistes. Gabrielle Roy, pour moi, c'est une Canadienne des plus importantes qu'on a eues. D'ailleurs, c'est peut-être la seule qui a un rapport avec l'argent, mais une de ses phrases qui est écrite sur un billet de banque. Donc, il y a quand même une citation de Gabrielle Roy sur des billets de 20 $ ou je ne sais plus, je ne sais pas, je ne suis pas très bon là-dedans. Et donc, peut-être Gabrielle Roy, Anne Hébert ou Marie-Claire Blais, qui sont pour moi trois écrivaines majeures. peut-être même Antonine Maillet aussi. Donc, c'est des écrivaines, là, je parle d'une des écrivaines d'une autre génération.
Ouais.
Mais j'irais peut-être avec des... Je vais pour ma paroisse, là, j'y mettrais des écrivaines de l'avant.
C'est parfait. Mais Anne Hébert n'a peut-être pas une station de métro à son nom, mais sache que j'ai passé tout mon cégep à étudier à la salle Anne Hébert parce que c'était le nom de notre bibliothèque à Saint-Hyacinthe.
Ah ben donc, bravo. Bravo, ouais. Parce que c'est une écrivaine majeure. Elle a écrit... Pour moi, là, elle a transformé... au même titre que Marie-Claire Blais aussi, mais elle, la première, je pense, à l'avoir vraiment fait, c'est bousculer les possibilités de la littérature en jouant avec les temporalités, en jouant avec la narration. Elle avait elle s'est permis des choses importantes, puis le tout avec une espèce d'élégance et une érudition exceptionnelle. Donc, bravo à Saint-Hyacinthe, c'est ça? C'est à Saint-Hyacinthe.
Oui, Saint-Hyacinthe. Bravo. Hey. Mais je comprends que tu parles en Zoom dans les écoles puis tout ça. Ça fait 3 secondes que tu me parles, puis je me dis, j'ai le goût de lire tous les livres des écrivaines dont tu viens de me parler. Je suis stimulé. Simon, tu crées ça chez les gens. Fait que ça, c'est bon. Faut qu'on t'envoie dans les écoles primaires puis qu'on remette les jeunes à vraiment plus lire.
On va lire Anne Hébert en deuxième année.
Mais écrivain, c'est ton métier. C'est un de tes métiers, en fait, là. Quel métier t'aurais détesté faire, vu que cela, c'est cela qui t'aime faire? Qu'est-ce que t'aurais haï faire dans la vie?
Moi, il y a bien des métiers que j'aurais été heureux. J'ai longtemps voulu devenir vidangeur. C'est quelque chose qui
m'a... Ah oui?
Ah oui, oui, oui. Quand j'étais jeune, c'est ça mon obsession. C'était, je pense que c'était le côté recyclage qui m'impressionnait beaucoup. Je voulais récupérer les choses. Donc, il y a bien des jobs manuels qui me plaisent. J'aime ça. J'ai travaillé pendant un été dans une caisse populaire quand j'avais 17 ans et j'étais préposée. J'ouvrais les guichets automatiques, donc je dépouillais les enveloppes. J'aimais beaucoup ça, tu sais, valider le chèque ou le dépôt avec le montant attesté. Et parfois, je passais des après-midi à déchiqueter des enveloppes. Puis j'aimais ça, là.
Oui, oui, oui.
Vrai, j'aimais ça juste. Déchiqueté. Pour moi, il n'y a pas de. Il y a rien de plus permissif que de faire un truc répétitif où ton esprit peut faire. C'est là que j'ai les meilleures idées. C'est quand je suis en train de faire un truc où je n'ai même pas à réfléchir. Je ne suis pas en train
de faire quoi? Que ce soit. Ils ont fait une étude là-dessus, puis je l'ai vu dans le Times, justement, que les gens qui font des travaux répétitifs sont plus créatifs. Parce que justement, leurs pensées peuvent, j'ai wander off, là, mais tu sais, ils peuvent s'évader dans leurs pensées justement en faisant le mouvement. Il faut faire attention là, de ne pas se passer justement les mains dans une déchiqueteuse.
Oui, mais tu sais, moi, c'est des trucs, je me rappelle aussi, une de mes jobs préférés, ça a été à l'entrepôt de Renaud Bray. Je retirais les étiquettes. Donc, tout ce que j'allais faire, c'était enlever des étiquettes sur les livres, les invendus. C'était tout, puis je cochais. Mon Dieu, je pense que j'aurais pu faire ça toute ma vie. Tu sais, puis quand je suis avec des livres, fait que je regardais tous les titres, puis quand j'avais un titre, je l'écrivais. Ah, je vais lire ça. Puis j'étais juste dans l'entrepôt de chez Renaud Bray à Côte-Vertu.
J'aime l'odeur des livres neufs. Moi, rentrer dans une librairie, là, c'est tellement le fun. Là, tu flippes un livre, en tout cas, ça sent bon. Là. Ah, ouais, ouais.
Tellement. Mais donc, une job que je voudrais pas, mon Dieu, on dirait que ça me vient pas, mais il y a certainement des choses qui me. En fait, c'est mettons conduire, mettons être chauffeur de taxi. Ça serait pas possible.
Non? Mais pourtant, tu serais capable de parler avec tout le monde, tu aurais cet avantage. Peut-être pas la conduite,
mais. Je ne mènerais pas où il faut. Je vais vous jaser pendant qu'on va faire le tour du bloc.
Parfait. Si ça existait la réincarnation, Simon, en quoi tu aimerais revenir? Si tu termines tes jours, en quoi tu aimerais ça revenir?
Est-ce qu'il faut choisir un être humain?
Ça peut être un humain, ça peut être une plante, ça peut être un animal, ça peut être... Je pense pas que ça peut être un objet, mais il n'y a pas de règlement, là, fait que tu choisis.
Moi, les chats, je trouve que, bon, je ne voudrais pas être un chat nécessairement, mais ça me fascine à quel point qu'ils sont... tu sais, je disais tantôt le mot « vélocité », là, je trouve que les chats ont une sensualité, puis ils ont un équilibre, ils ont une... Il y a quelque chose qui me fascine dans leur façon de se mouvoir. Donc, j'aimerais ça être un chat pour ça, je pense. Juste pour me déplacer, puis pour avoir cette élégance-là.
Être gracieux. Ah ouais, je comprends. Ouais, hey, puis tu viens de me rappeler en disant vélocité, que c'est t'aimes les mots en V, mais mon chat s'appelle V. Je l'ai seulement appelé V. Oui. Mais c'était pour V pour Vendetta il y a comme une dizaine d'années. Mais ça s'appelle seulement V. Fait que ouais, je viens de me rappeler ça.
Pendant un bout de temps, ça a été un poste de télé aussi.
Oui, c'est ça, mais c'était plus gênant de dire. Non, moi, vraiment, c'est que je suis un amateur de la chaîne, donc j'ai appelé mon chat.
Très drôle. Maintenant, je t'appelle Nouveau pour qu'il se reconnaisse. Nouveau!
Simon, réincarner puis tout ça. Mais mettons, t'arrives aux portes du paradis avant la réincarnation. T'arrives aux portes du paradis, t'as Saint-Pierre ou Dieu ou la personne en qui tu crois qui est là. Qu'est-ce que t'aimerais qu'elle te dise? Qu'est-ce que t'aimerais l'entendre te dire?
Ah! Oh, et qu'est-ce qu'elle pourrait bien me dire? Mon Dieu, t'as-tu eu du fun?
Ouais, à la fin de ta vie, t'as... Ben, c'est sûr ouais, qu'elle le sait, voyons donc. C'est sûr qu'elle sait que t'as eu du fun. C'est sûr que t'arrives en riant, toi, pour une raison obscure. T'arrives au paradis en riant.
Mais c'est sûr que je vais mourir d'un accident un peu bête. Puis elle va faire « Bon, je te l'avais dit. » Ça ferait juste ça. « Je te l'avais dit de pas faire de pitrerie. » Je fais « Oh! »
Ça, c'est sûr que c'est genre débouler les marches avec des collègues. Oui. C'est juste toi qui meurs, finalement. Tout le monde est correct.
Mais oui, c'est quand t'es sous, t'es plus souple. Parce que donc moi, j'avais peut-être pas, j'aurais peut-être, ouais, j'aurais pu mourir dans ces marches-là. Hey, c'est drôle parce que j'ai une fixation sur les gens qui déboulent les escaliers et qui meurent. J'ai vraiment...
Ah oui?
D'ailleurs, Françoise Giroux, une journaliste et écrivaine française, elle est morte, elle a peut-être, je sais pas, 90 ans lorsqu'elle est morte, et c'était à l'entracte, à l'opéra, à débouler les marches, puis elle est morte.
Mais, dis, mettons, à part la descente, je veux dire, elle était un peu morte heureuse, là, elle était à quelque part qu'elle aimait.
Elle était repu de belle musique. Tu arrives, tu fais, tu sais, tu chantes ta toune, puis...
Mais c'est à l'entracte, ils ont fini le spectacle?
J'imagine que c'est quand même une femme importante. Peut-être qu'ils ont fait « Hey, entre-temps, à notre entracte, il y a François Giroux qui est décédé dans nos marches. » Ou peut-être qu'ils ont joué en son honneur, je sais pas.
La deuxième
portion sera...
Simon, c'est un de mes moments préférés de l'entrevue. On est rendu à la fameuse question de Manon Pinault. Donc, Simon, ma mère qui capote sur toi, tenait à te demander la question suivante. Puis elle t'aime quasiment plus que moi parce que de la façon qu'elle pose la question, il y a tellement d'amour. Simon, avec toute l'énergie que tu dépenses à bouger, comment réussis-tu à te concentrer pour écrire si divinement?
Oh mon Dieu, qu'est smart! Oh mon
Dieu! J'avais pas mis d'interrogation, elle finit avec un point d'exclamation. C'est tellement juste une affirmation. Je veux pas de réponse.
Je veux faire une game de Dr. Margot avec ta mère.
Ah, mais hey, je vais vlogger là-dessus.
Écoute, moi, je pense que je suis comme un oxymore en soi, c'est-à-dire que j'ai vraiment deux contraires qui s'épousent bien. J'ai un côté très éclectique et très, je pense aussi, très enthousiaste. Dans la vie, j'ai un élan facile. Mettons, quand la caméra s'allume, je peux vraiment m'allumer à 110 quand c'est le temps. Puis en même temps, quand la caméra s'éteint, je suis vraiment, vraiment dans une sobriété immense. Mon chum, tu sais, qui me côtoie tous les jours, souvent, il se fait dire, je me rappelle une fois, on était dans un lancement, puis Michel Tremblay, qui est rendu quelqu'un que je côtoie bien, là, Michel a dit à mon chum Philippe, « Hey, il doit pas être facile à suivre. » Puis mon chum, il dit, « Il est vraiment facile à suivre. » Tu sais, moi, je suis quand à même maudite place. Tu sais, je suis quand même... Quand j'ai des demandes pour me déplacer, évidemment, pour les tournages, je le fais toujours avec grande joie. Puis quand c'est le temps de danser, je danse. Mais quand c'est le temps d'écrire, je suis là, je te parle directement l'endroit où j'écris. Je suis toujours là devant ma porte patio, entourée de livres, dans ma salle à manger. J'ai un bureau dans lequel je ne vais jamais, à part faire du tapis. J'ai un tapis roulant, là, mais c'est ici que j'écris. J'aime ça être à la grande table. Tantôt, j'ai donné des conférences. Regarde, j'ai tous mes livres à côté de moi. Là. J'ai fait une petite pile de mes livres. Puis, j'aime ça donc être dans cette bulle-là, une bulle de calme, où je suis beaucoup dans le silence. J'écoute même presque pas de musique. Je parle peu. Vraiment, je parle très, très peu. Mon chum me trouve très silencieux. Et il y a des moments où c'est comme si je m'allumais totalement. Donc, pour pouvoir écrire puis être dans une grande concentration, j'ai besoin de ça. J'ai besoin d'être dans cette bulle très serrée, tricotée. Tu sais, les mailles sont vraiment serrées. Là. Je suis un peu sauvage, en fait. Donc, quand je te disais que je suis un oxymore, c'est que j'ai une grande sauvagerie puis à la fois très grégaire. J'aime ça être en société aussi. J'ai besoin des deux, en fait.
Mais c'est parfait. Mais c'est vraiment une bonne façon aussi de créer. Moi aussi, j'ai un bureau, puis quand vient le temps d'écrire, j'aime mieux être devant la grande fenêtre puis avoir de la lumière puis être entouré d'un peu d'animaux puis un peu d'espace. Simon, question rafale personnalisée. Alors, tu dois répondre rapidement. Tu pourras nous expliquer ensuite. Chanter ou danser?
Boy, hey! Oh mon Dieu, ça c'est dur. C'est dur parce que les deux me rendent tellement heureux. Dans les deux cas, pour moi, c'est deux activités qui m'élèvent. Quand je chante, j'ai l'impression que ça me met en joie. Et quand je danse, j'ai l'impression que j'exulte. T'sais, j'ai l'impression que mon corps doit parler aussi. Je te dirais que j'irais peut-être avec danser si je dois choisir parce que je suis conscient que je danse mieux que je chante bien. On m'a tellement dit que je chantais mal. Tu sais, je sais que ce qui est frustrant, c'est que dans ma tête, j'atteins toutes les notes. C'est comme si j'avais l'oreille absolue, mais qu'absolument personne ne le savait. Tu sais. C'est comme, pour moi, c'est clair que j'atteins la note. Puis quand je me réécoute, parce que tu sais, j'ai chanté à En direct de l'univers, à Belle et Bonne, à la semaine des 4 juillet, puis ça a été un fiasco à chaque fois. C'est comme, il y a un décalage incroyable entre l'effet que je crois créer puis ce que je crée pour vrai.
Donc, c'est peut-être l'acoustique aussi, là, tu sais. Des fois, c'est juste l'acoustique. C'est clairement l'acoustique.
Ma douche comprend ma voix. Mais je te dirais que danser, puisque danser, j'ai l'impression que lorsque je danse, je fais plus sourire les gens positivement. Donc, puis j'aime ça, faire plaisir aux gens. Donc, souvent, mettons, on me demande... Dans un party, là, j'en ai plus, là, mettons, chez Marie-Louise Arsenault, le party du Nouvel An puis le party de fin d'année au mois de juin, elle a une grande, j'allais dire une piste de danse. C'est juste un immense salon où on peut danser. Puis elle a une colonne. Et j'aime ça faire de la danse poteau. Alors, j'appelle ça de la danse colonne. Là, je danse autour. C'est le seul moment où je bois un peu. Ben, que je buvais avant, là, c'était au Nouvel An. Puis j'aimais bien ça. Puis, tu sais, souvent, j'avais comme une espèce de rapport de bonimenteur. Tu sais, les gens se placent autour de moi. Tu sais, quand tout le monde danse autour d'une personne danse autour d'un cercle, ça m'arrivait beaucoup. Puis j'aimais ça. J'étais comme repu de fierté.
C'était un peu la sacoche avec un groupe de filles qui est au milieu de la scène et tout le monde
là. La sacoche dynamique. La sacoche vélos.
Simon, là, je tiens à préciser que c'est en art que tu préfères faire rire ou faire pleurer.
Oh boy, hey, c'est dur ça. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est précisément le passage d'un à l'autre. C'est vraiment la jonction qui m'intéresse. C'est ni faire pleurer, c'est ni faire rire. C'est vraiment entre les deux. Puis ce qui me plaît le plus, là, c'est quand il y a quelqu'un qui rit puis l'autre à côté pleure. Puis ça m'est arrivé souvent parce que j'ai le cul entre deux chaises en général. Puis dans tout ce que j'ai fait, je me rappelle mes numéros à Cégep en spectacle, mon ami Joël Paré-Beaulieu, elle pleurait pendant mon numéro puis elle était fâchée parce qu'elle avait qu'elle avait ri. Puis j'avais dit, j'étais jeune, là, j'avais peut-être 21 ans, tu sais, je commençais à faire du théâtre puis j'avais dit, oh non. Moi, ça me rend heureux que tu pleures puis qu'à côté de toi, ça rit. Pour moi, c'est parfait. C'est ça que je... Tu sais, une émotion, c'est jamais pur, c'est jamais qu'une seule chose, c'est complexe. Puis, si tu fais rire quelqu'un, fait pleurer l'autre. Puis, j'aime cette ambiguïté-là. Donc, sincèrement, je ne peux pas choisir. Puis, c'est drôle, peut-être que tu vas devoir peut-être le couper, là, mais ce soir, tu as l'émission première fois. Oui. Et pour moi, j'ai écrit en statut Facebook ce soir, j'ai fait le grand écart entre les larmes et le rire. Puis pour moi, c'est ça, je viens de circonscrire la vie. C'est de faire la split entre les deux, puis ça me plaît. Donc, je peux pas... J'ai envie de rameuter le rire dans les larmes, puis les larmes dans le rire, donc je peux pas choisir.
Hey, c'est parfait. Mais c'est très bien expliqué, du moins. Fait que c'est pas grave. J'accepte. C'est la seule fois que j'ai accepté que quelqu'un ne réponde pas à la question.
Je suis tellement rebelle.
Et là, si cela tu as encore une réponse aussi longue et aussi tough, je vais pas comprendre. Looney Tunes ou Disney?
Je pensais pas
que ça allait être tough.
Looney Tunes.
Ah oui!
Ouais, parce que avant Walt Disney, c'est drôle. Parce que pour moi, je pense qu'il y a une grande part de nostalgie quand on nomme ces choses-là. Puis on dirait mon premier souvenir qui pointe à mon esprit, là, c'est quand j'étais avec ma sœur chez ma grand-mère, grand-maman Janine. Mon grand-père, il travaillait. Puis on écoutait les Looney Tunes. Puis ma grand-mère qui cuisine à côté. Il y a quelque chose de trop réconfortant et de trop émouvant pour moi. Puis je sais que les Walt Disney sont souvent mieux écrits dans la construction. Puis il y a des films, moi c'est La Petite Sirène par exemple, ou La Belle et la Bête qui sont des films que j'ai adorés. Mais les Looney Tunes, pour moi, ils incarnent mieux le rassemblement familial puis le rituel. Puis je pense que ça me plaisait enfant, puis ça me plaît encore. Le rituel me plaît toujours.
Parfait. Ben tu vois, celui l'exemple de, tu sais, ça vient, tu fais rire quelqu'un, tu fais pleurer quelqu'un parce que dans leur background, chacun a vécu quelque chose. Fait que je m'attendais jamais à Looney Tunes, mais je suis très content de savoir pourquoi tu as choisi eux. La prochaine, hey, je ne sais même pas si ça va être dur pour toi parce que Lara Fabian ou Céline Dion?
Oh mon Dieu! C'est... Écoute, quand j'étais adolescent, c'était la guerre entre les fans de Céline et les fans de Lara. Ouais. Je ne sais pas si ça a été alimenté par quoi, mais il y avait une forme de rivalité, puis on devait choisir son camp. Puis moi, j'ai toujours aimé, j'ai longtemps aimé, ben non, j'aime toujours Céline, mais j'aime beaucoup, beaucoup la Céline des années 80-90, surtout le ouais. début 90. Puis même jusqu'à Titanic, là, j'ai été ben heureux. Mais tu sais, les premiers CD de Céline de début de 90, ça m'a rendu ben heureux. Et Lara, pour moi, je pense que je vais choisir Lara, puis je vais dire pourquoi. C'est que Lara, elle était un peu plus électron libre au départ. T'sais, elle était vraiment vue comme une étrangère qui débarquait, hein, de la Belgique ou de l'Italie, peu importe, mais qu'elle débarquait de l'Europe. Puis elle était peut-être moins consensuelle, elle faisait moins le consensus, donc l'unanimité plutôt. Ouais. Moi, j'aimais beaucoup sa voix cristalline et j'aimais le fait qu'elle écrivait ses chansons. On ne l'a pas beaucoup dit, mais c'est quand même une femme qui, dès 19 ans, a écrit ses propres chansons, les a composées, les a coécrites. Donc, pour moi, c'est absolument louable. Et donc, j'aurais envie de dire Lara Fabian pour. Puis aussi pour. J'étais dans son fan club, puis il y avait une plus grande proximité. C'était plus petit, c'était plus. Elle n'avait pas la carrière internationale encore. Donc, j'ai eu la chance de la rencontrer à quelques reprises quand j'étais adolescent.
J'ai vu ta toile.
C'est dégueulasse. C'est tellement dégueulasse. Je ne peux pas croire. Encore une fois, je pensais que c'était beau. Hein? Mais tu sais, bon, ça, c'était la naïveté de l'enfant. Mais je pense que ça m'a beaucoup défini. Aimer Lara, c'était presque un statement. Ouais. Alors que je me rappelle, c'est une époque où tout le monde tripait sur Green Day à l'école. En tout cas, à l'école Pierre Bédard où j'allais à Saint-Rémy. Puis, tout le monde tripait sur Green Day. Puis moi, j'aimais Lara Fabian. C'était tellement dissonant que ça me rendait un peu cool. Bon, les gens ne me trouvaient pas cool. Mais quand je regarde ça, je fais « Hey, j'étais cool quand même d'aimer autant, d'être autant électron libre dans une société où tout le monde n'aime qu'une seule chose et que si tu n'appartiens pas à ça, t'es pas cool. »
Ben, c'est ça qu'on se rend compte plus en vieillissant que ce qui est différent de nous, c'est ça qui fait notre couleur puis qui nous rend cool, en fait.
Peut-être qu'à un certain moment, j'ai voulu taire le fait que j'avais aimé Lara Fabian. C'est peut-être à 17 ans quand je rentrais au cégep en littérature puis que tout le monde écoutait juste du Radiohead puis j'aimais ça Radiohead puis on écoutait beaucoup Nina Simone.
Oui.
J'adhérais à ça complètement puis le fait que j'avais tellement aimé Lara puis Whitney Houston, je pense que je le disais pas trop, puis chaque fois que je le disais, je voyais que ça me précisait aux yeux des autres et que ça me rendait intéressant parce que j'étais pas juste un amoureux de Radiohead comme tout le monde, donc ça participait à ce que je suis. Je suis capable d'aimer Radiohead pour toutes les qualités que le groupe représente, mais aussi j'aime beaucoup, beaucoup encore aujourd'hui certaines chansons de Lara, tu sais, puis bon Dieu, qu'elle est gracieuse. Je sais pas si t'as vu le cover, elle est tellement belle.
Non, mais elle est magnifique, là. Puis tu sais, à Star Academy aussi, mais on dirait qu'elle rajeunit en vieillissant. Elle est sublime. Là. Mais tu disais, t'as dit Whitney Houston. T'as dit Whitney Houston. Et moi, j'ai tellement trippé sur Whitney Houston, mais c'est à cause de Bodyguard, là, le garde du corps avec Kevin Costner. Et j'ai appris pas moins de la semaine dernière en écoutant sur Spotify, genre vieille chanson qui remonte le moral. Et je savais pas que c'était pas elle. I Will Always Love You, la première version.
Non, c'est Dolly Parton.
Oh mon Dieu, elle est tellement bonne, la version de Dolly Parton. Mais j'ai capoté.
Attends, mais là, OK, moi, Dolly Parton, c'est une de mes idoles, OK, vraiment. Dolly Parton a composé I Will Always Love You et Jolene, qui sont deux plus grands succès. C'est deux grandes chansons. Oui. Elles les ont composées la même semaine. Et elle raconte, dans le podcast que j'ai écouté, elle raconte que c'était la même soirée, puis après ça, elle revient, je pense qu'elle a menti un peu, mais l'idée, c'est qu'elle les a quand même composées, genre peut-être en 3 jours, les deux plus grands succès qu'elle a fait toute sa carrière sur ces deux chansons-là.
Et mais Jolene, elle me fâche, parce qu'Anneli, elle capote sur Jolene, puis je suis comme, mais pourquoi c'est... Parle à ton chum, parle pas à Jolene, c'est pas elle le problème. Pour ceux qui savent pas, c'est une fille qui est jalouse d'une autre fille, puis elle dit, vole-moi pas mon chum, mais... Va, en théorie, parle à ton chum, c'est un ton de merde, ça a mal vieilli.
Pas d'accord avec toi. Je vais te dire pourquoi. Parce qu'on ne sent pas que tu es jalouse. Oui, elle est jalouse, elle a une jalousie. Mais ce n'est pas une jalousie où elle a envie de blesser l'autre ou de la diminuer. Elle reconnaît dans la chanson qu'elle est trop belle. Elle a décrit de façon tellement admirative. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur le fait qu'il y avait peut-être du lesbianisme dans la chanson. Tu es tellement belle que finalement, peut-être qu'elle veut plus coucher avec Jolene qu'avec son chum. Puis moi, j'aime bien gros cette définition-là. Moi, j'aime les chansons lesbiennes, il n'y en a pas beaucoup. Donc, je dis, J'aime la voir comme une chanson lesbienne et aussi comme une... Il y a presque de la sororité dans cette chanson-là où on sent que, oui, il y a une forme de rivalité, c'est sûr, parce qu'elles se battent pour le même homme, mais il y a tellement un respect dans tout ce qu'elle dégage, dans tout ce que l'autre... Elle la diminue pas. Donc, pour moi, il y a une forme de sororité dans cette chanson-là. Je la trouve belle. Puis en plus, le titre, le nom de Jolene, elle raconte dans le podcast qu'elle a eu l'idée quand une petite fille a demandé un autographe après un spectacle, puis elle dit What is your name? Et moi, je suis dégueulasse en anglais. What is your name? Puis elle dit Jolene. Elle fait oh, Jolene, I like it. Puis elle dit un jour, je vais écrire une chanson qui va s'appeler Jolene.
Mon Dieu. Hein? Hey, c'est beau. C'est comme quand Babe Ruth disait à un enfant, m'a faire un circuit pour toi. Ça, là, c'est la même chose.
Oh mon Dieu, je me rappelle.
Quand regardé la game le soir, t'es comme, oh mon Dieu, c'était pour moi, celui-là.
Oh, wow. J'ai vu le film quand j'étais jeune, j'avais mis ça. J'ai vu ça au ciné-parc.
Hey, mais dans le film, là, je sais pas si tu te rappelles, mais le petit gars, il demande un circuit, puis il fait, non, je vais t'en faire deux. Oh. Hey, cassé en tant qu'enfant. Wow. La prochaine question risque d'être. On risque de moins s'emporter. Yo-yo ou cube Rubik?
Mon Dieu, je me calisse tellement des deux. Là, avec
j'en, ai un, point. J'en ai un ici, j'ai jamais réussi à le terminer. Hey, j'aurais rêvé sur le podcast d'avoir au moins une face de couleur comme il faut, mais
moi, si seulement j'avais des ongles, j'aurais juste passé mon temps à décoller les petits carrés et les coller. Non, écoute, un yo-yo, j'ai l'impression que je reçois ça dans le front, puis un cube Rubik, je pourrais me lancer dans le front tellement que c'est fâchant. Donc, les deux, ça m'abrutit.
Parfait. Et la dernière, celle-là va être tough, j'ai l'impression. Tu ne sais pas écrire, mais tu sais lire. Ou tu sais écrire, mais tu ne sais pas lire.
Aïe, hey, ça, c'est vraiment une décision fondamentale parce que ça remet en question toute ma carrière.
Oui, exactement. C'est ça qui est plus tough. Il y en a d'autres que c'est genre quand t'achoumes, tu vomis ou quand tu t'assois, tu pues. Mais tu sais, comme toi, c'est vraiment des questions où tu te remets en question.
Parce que j'ai toujours, pour moi, je suis convaincu que le fait de lire autant, ça nourrit l'écrivain en moi, forcément. Donc, oui. Je pense que je serais pas un auteur intéressant si je lisais pas. Donc, pour cette raison-là, je suis en train d'abdiquer je vais renoncer à ma carrière, mais je préfère lire et ne pas écrire parce que je suis convaincu que je ne pourrais pas être un auteur intéressant si je ne lisais pas. Mais je pourrais être un lecteur intéressant si j'écris pas.
Ah! Ça, c'est super. Un lecteur intéressant, il passe plus dans l'ombre, eux autres. Hein?
Oui,
on entend moins parler.
L'humilité totale, bon. Mais tu es quand même un bon lecteur, puis les gens ne le savent pas, mais tu es un bon lecteur.
C'est quoi ta plus grande peur ou ta plus grande phobie, Simon?
Comme beaucoup d'acteurs, j'ai fait d'ailleurs, ta blonde et moi, on s'est beaucoup côtoyés à une certaine époque parce que je vivais avec Eve Landry. On habitait longtemps ensemble, 3 ans ensemble, puis Anneli venait souvent ici parce que c'était cet appartement-ci.
OK.
Comme Eve, on s'en parlait souvent, je pense que c'était faire le rêve récurrent, c'était qu'on oublie notre texte. Ça, c'est comme le classique, là. Puis d'ailleurs, Anne-Elisabeth a déjà eu un blanc sur scène.
Oui, hey, puis ça a pris du temps à s'en remettre. Après, quand elle retourne sur scène, oui, exactement.
Je pense que c'est un choc post-traumatique quand ça arrive pour vrai. Moi, ça m'est arrivé une fois sur scène, je suis à la Licorne, et je ne sais pas ce qui s'est passé. Mon pharynx coinçait. C'était un soir de première. Je savais vraiment bien mon texte. Tout allait bien, sauf que je ne sais pas pourquoi, je manquais tout le temps de salive. Mm-hmm. Je savais que ça allait pas bien, puis j'avais un solo de 15 minutes. Et juste avant de commencer, j'ai fait, ben voyons, je vais prendre une bouteille d'eau avec moi sur scène. Sauf que je me suis dit, je peux pas la traîner avec moi, fait que je l'ai laissée loin. Et finalement, ben, à un moment donné, j'avais plus de salive. Je sais pas, ça a vraiment coincé. Et parce que, c'est fou, parce que je m'entendais plus de la même façon, ça a fourré mon texte. Je savais très bien mon texte, mais parce que c'était laborieux, je chantais que je cherchais ma salive. J'ai eu un vertige et j'ai vraiment eu un blanc où un collègue est venu m'aider. Ça ne m'était jamais arrivé une affaire comme ça. Jamais. Moi, j'étais assez
excité pour... Tu n'étais pas seul, tu as un solo, mais tu avais d'autres mondes qui étaient là.
C'était un spectacle de solo où les collègues étaient assis sur la scène autour de nous. Ils étaient comme ils nous entouraient. Et c'était Luc Bourgeois, qui était mon prof de voix à l'école de théâtre, qui m'a dit... Tu m'as comme relancé et mettons, ta coloc, oui, c'est ça, merci. J'ai bien rebondi, sauf que j'ai eu un vertige, j'ai fait des cauchemars pendant 2 semaines, je rêvais toujours à ça. Donc ça, c'est une des pires affaires, Puis l'autre, la plus étonnante, et ça, c'est une phobie que je traîne depuis l'enfance, et je pense pas que ça va se terminer un jour, à moins que je fasse, que j'aille voir Mesmer pour ça. J'ai une phobie du métal. On appelle ça métallophobe. Donc, je peux pas tenir de la monnaie dans ma main. Je peux pas même un son, tu sais, du screening, là, tu sais, du fameux screening dans les poches. Je peux perdre une érection à cause de ça. Parce que ça me.
Il y a beaucoup de monde lors d'une érection, s'ils entendent du screening, probablement.
Mais mettons, tu déshabilles quelqu'un dans un lieu. Ça m'est déjà arrivé. Tu déshabilles quelqu'un, idéalement un garçon, et là, tu baisses le pantalon, et là, il y a de la monnaie qui tombe dans ton lit. Pour moi, c'est tu quittes.
Ah, tu relances
ta monnaie, et genre, je vais brûler ma literie, et tu t'en vas. Tu sais, je dis, c'est à ce point-là. Donc, la monnaie, les clés aussi, je peux juste tenir mes clés à moi. Quand tu me passes tes clés, je ne peux pas y toucher. Puis évidemment, les poteaux de métro, mais ça, les gens me comprennent parce qu'on sait tout ce qui se trouve sur un poteau de métro. Mais donc, tout ce qui est en métal, essentiellement les clés et la monnaie, je suis incapable. L'odeur me lève le cœur, la texture, le...
J'haïs ça. Tu es un grand fan d'Interact, toi, finalement.
Mon Dieu, ça a changé ma vie. Mais je me rappelle, quand j'étais adolescent, je m'achetais rien. C'est comme si ça m'a rendu hyper économe. Je voulais pas rien acheter. Je ne voulais pas transiger quoi que ce soit. Les seules fois que j'ai apporté un mouchoir, puis là, je donnais, puis là, je ramassais le mouchoir, il ne fallait pas que ça me touche.
Fait que ça fait longtemps là, que tu t'as ça. Là. C'est pas... OK.
Oui, puis ça fait longtemps. Surtout, tu t'es
Je ne sais pas. Je sais pas pour qu'est-ce que c'est. Ça m'a vraiment turné on, moi, finalement. Le métal, c'est tout l'opposé.
Des lasers. Je me rappelle qu'en deuxième année, il y a un petit garçon qui avait échappé un 10 cents dans son beurrier. Il l'avait léché et j'avais vomi dans mon cabaret. C'est le premier souvenir que j'ai. Puis après ça, ma sœur m'a longtemps écœuré. J'avais vu au Croc à Saint-Rémy, il y avait un cuisinier qui faisait la poutine et il y avait une bague. Puis j'avais vu toucher à la nourriture avec sa bague, ça m'avait... Je voulais plus manger de la
bouffe. Ça, c'est... Mon père est inspecteur de restaurant, c'est complètement illégal, là, cela.
On parle des années 90. Mais donc, j'ai eu du dégoût pour la poutine un certain temps à cause de la bague. Ma soeur, quand elle voulait me lever le cœur, elle me disait « Fromage, dague, fromage, dague. » Je faisais « Ah! » Je cavotais.
Il y a du monde, c'est quand il touche un œil devant l'autre, mais toi, c'est vraiment, tu fais juste dire « bague et fromage. »
Ah, mon Dieu.
Mais ça fait que dans le fond, fromage, tu fais beaucoup, toi.
Bague. Je ne voulais pas me marier quand j'étais jeune à cause de ça. Je ne voulais pas porter de bague, évidemment. Donc.
Ah, mon Dieu. Mais fait que dans le fond, au resto, là, tu ne reprenais jamais le change. Tu gardais, tu étais un des meilleurs...
Ouais.
Donut pour boire dans le fond de l'île de Montréal, probablement. Non, il revient 3,50$. Gardez ça, je ne peux pas avoir ces
Des fois, dans de la sexualité anonyme, ça peut arriver qu'il y a des piercings que tu n'avais pas prévus. Tu sais.
Ouais.
Ça existe, mettons, un prince Albert.
Ouais.
Bon, il y a des gens qui ne savent pas c'est quoi, puis je vous envie.
Je vous ai googlé si vous voulez mal dormir.
Horrible. Ça m'est arrivé une fois de tomber sur un prince Albert et c'est le plus gros coït interrompu de ma vie. C'est bye bye!
Ça va être... Mais avec quoi tu manges, Simon? Des baguettes de bois tout le temps?
Mes affaires à moi, c'est comme ma limite. Mes ustensiles, ça va. Tu sais, mettons, au restaurant, je prends pour acquis que c'est bien lavé, mais on dirait des ustensiles, c'est moins grave que... Tu sais, je pourrais jamais manger avec des clés. Ou pas même de la poudre.
Ouais, c'est ça. Un gars qui fait pas de drogue, dans le fond, parce que moi, c'est pas tant la drogue qui m'attire pas que le métal sur lequel on la pose. Simon, qu'est-ce que tu dirais au jeune Simon? Et ça, je vais pas te mentir, c'est pas Bernard Pivot, c'est vraiment RuPaul dans RuPaul Drag Race.
J'aime tellement RuPaul. Écoute, je vais avoir une réponse typique de drag queen, c'est-à-dire le désir de dire que tout ira bien et le désir de prendre la personne, nous, en format réduit, de nous prendre dans nos bras mutuellement. Mais moi, en même temps, j'ai l'impression que j'étais bien outillé. Pourtant, j'étais pas bien parti, mais c'est comme j'avais le sentiment que les belles choses viendraient. J'ai tout le temps eu cette conviction-là qui m'a sauvé parce que j'ai eu une adolescence vraiment tough. J'ai été comme ben des ados un peu efféminés. J'ai été super ridiculisée. Ça a vraiment miné ma joie, mon envie d'aller à l'école aussi. Donc, ça m'a un peu isolée, mais je savais que les belles choses viendraient. Je ne sais pas d'où ça me venait, cette conviction, cet optimisme-là. Mais donc, je renforcerais peut-être cet optimisme en disant tu as raison de croire que ça s'en vient. Les belles choses vont vraiment venir. Et les gens que tu considères hot et que tu voudrais tellement adhérer à ce monde-là ne le seront peut-être pas si longtemps.
Ouais, exactement. Et ça fait mal quand tu regardes les gens cool du secondaire.
Qu'est-ce qu'on est devenu?
Au symposium, au conventum, quand oui. Tu reviens, tu fais comme, oh là là, tu te rappelles-tu? Oui. Ça, là, ça, c'est tough. Ben, c'est tough. Ça dépend, t'es lequel dans les deux, tu sais.
Mais Guillaume, il m'est arrivé quelque chose de tellement beau. J'ai fait deux conventums, parce que moi, j'ai en avoir 38 ans. J'ai eu 38 ans. À mon deuxième conventum, j'ai fait mon premier à 27, puis le deuxième à 37. Puis à 37 ans, ça n'avait pas très longtemps, juste avant la COVID, là, l'année d'avant, on est allé, je suis retourné, c'était pas à l'école, c'était à côté, au centre communautaire à Saint-Rémy. Puis il y a un gars qui a été mon meilleur ami quand j'étais en première année. Puis après ça, quand il a compris que j'étais facilement, c'était facile de rire de moi, il a comme compris que s'associer à moi, c'était pas positif. Donc il m'a, comme beaucoup de gens, un peu ridiculisé, surtout au secondaire. Et donc, il avait vraiment pris ses distances. Et quand quelqu'un a été autant ridiculisé, puis là, connu un certain succès, le regard des gens change tout le temps. Donc moi, dans les conventums, oui. C'était payant, c'était le fun pour moi. Je revenais, je me demandais, mais les gens sont fins. Mais oui, souvent, les gens sont fins. Dans le temps, je pense aussi que la distance a changé les choses. Mais ce gars-là, c'est très émouvant ce qui s'est passé. Il y avait un slow, puis il m'a demandé de danser. T'sais, il y avait sa femme à côté, puis bon, puis il m'a demandé, j'aimerais ça. Veux-tu danser avec moi? Puis bien sincèrement, ça ne me tentait pas. Ça m'aurait tenté quand j'étais adolescent. Mais là, ça ne me tentait pas pendant tout. Mais j'ai compris que pour lui, qu'il n'était pas habile à me dire « je m'excuse pour ce qui s'est passé », c'est ouais. Une façon de s'excuser. Puis j'ai fait « ah bon, je ne peux pas ne pas comprendre ça ». Fait qu'on a dansé un peu en riant. Ben, puis c'était vraiment très... je pense que c'était une façon pour lui de faire la paix avec ce dont il n'était pas nécessairement fier. J'ai trouvé ça beau. Je fais « ah, mon Dieu, ça serait une belle scène de film, ça. » Quelqu'un, tu sais, le gars qui n'est pas à l'aise, mais qui fait « bon, je comprends que pour lui, il fait un effort, je comprends la chose. » J'ai fait « ah, c'est quand même beau. »
C'est bon. Bien, en plus, ce qui est beau dans l'histoire, c'est que c'est toi qui, finalement, ça ne te tentait pas de danser.
Oui.
Hey, je vais y aller, malgré que c'est pour toi que ça va être libérateur. C'est ouais. Vraiment c'est ouais. Magnifique, en fait. On passe à « c'est quoi le bonheur parfait pour toi? »
Moi, je t'ai dit au tout début, les petites choses, là. Les petites choses, il y a Sylvie Laliberté que j'aime tellement, une écrivaine et une artiste multidisciplinaire. Elle chante, elle fait des arts plastiques, des arts visuels. Elle a dit « les grandes choses m'impressionnent trop. Les petites choses m'impressionnent trop, j'oublie d'en faire des grandes. » Moi, je suis ça, c'est complètement ma nature. Les petites choses m'impressionnent trop, j'oublie d'en faire des grandes. Donc, mon bonheur, c'est pour vrai manger un bon repas avec mon chum. Mon chum cuisine super bien. Ça me rend bien heureux. Moi, je suis du genre à m'extasier sur n'importe quel repas. Je dis, mon Dieu, c'est bon, ben bon, tout est bon. Lire un bon livre, être à la maison, c'est pas quelque chose de... Ça m'ennuie pas du tout. Être dans le confort de ma maison, regarder une bonne série, jouer à Dr. Mario. C'est une soirée qui me rend bien heureux.
Dr. Mario, j'en reviendrai jamais. J'ai hâte. Dès que c'est terminé, j'appelle maman, je dis, comment c'est Dr. Mario à faire? Je savais, il est fin. Oh, hey, c'est bon. Des fois, je revois l'ordre des questions, je suis comme, hé là, mais maintenant, on passe à ta plus grande épreuve. Est-ce que tu te rappelles ta plus grande épreuve dans ta vie?
Sans doute. Pour moi, le coming out n'a pas été quelque chose de facile. Je pense que c'est dû en partie de l'époque à laquelle je l'ai faite, puis aussi la région à laquelle, dans laquelle je suis issu. Saint-Rémy n'est pas une ville, en tout cas, n'était, je la visite très peu, là. Saint-Rémy, ouais. Dans les années 90, n'était pas une ville très inclusive ou très LGBTQ-friendly. Pas du tout. Il y avait beaucoup d'homophobie. Et donc, quand j'ai fait mes premiers, parce que c'est une succession, hein, c'est pas un coming out, c'est à un ami à la fois et à mes parents. Donc, ça a été une année, là, 17 ans, ça a été bien stressant. C'est une succession de petits... C'était-tu un combat, le mot? C'est
une épreuve.
Une épreuve. Ben, ouais. Je pense que c'est une épreuve quand même, parce que tu sais, c'est quand ouais. Même révéler quelque chose pour l'époque, tu sais, aujourd'hui, j'en souris un peu, là, mais c'était très troublant pour moi. Tu sais, puis je savais que j'allais décevoir mes parents, que j'allais les déstabiliser. Et je les ai vraiment déstabilisés. Tu sais, on pourrait penser, mon Dieu, mais quoi, ils te voyaient pas. Mais non, mes parents, tu sais, m'ont toujours connu comme ça. Puis pour eux, j'étais juste un artiste. Puis, mais il y avait la grande peur du sida dans les années 90. Donc, mes parents, je pense qu'ils ont eu très peur pour moi. Puis pour donc, je pense que ça a été une grosse épreuve pour eux. Ben, pour moi aussi, là, pour moi, tu sais, ça a été un moment... puis mon Dieu que je suis rendu ailleurs aujourd'hui. Mais ça a été... Je revois la fébrilité qui m'animait quand j'ai fait ma série de petits coming out.
Puis quand tu dis la série, est-ce que justement, est-ce que tu as commencé avec tes parents?
Non, j'ai même abouti à mes parents parce que c'était le morceau de la pièce de consistance pour moi. Ouais. Donc, j'ai commencé avec mon amie Maude, mon amie Marie-Ève, ma sœur. Et après ça, tu sais, je savais que ça allait se prêter, là, qu'après ça, ma sœur allait le dire à des amis, que à mes cousines notamment. Puis donc, je voulais pas que ça soit un secret. Là, après ça, je fais, vous pouvez le dire, mais ouais. Trois personnes, puis j'ai abouti à mes parents, puis j'étais pas capable de l'articuler. J'étais incapable d'avoir cette aisance-là, donc j'ai écrit une lettre. Et cette lettre-là a été hyper douloureuse à écrire pour moi. Et on a fait un retour sur cette lettre-là. Et mes parents ont dit la chose la plus importante. Même si ça les déstabilisait, ils m'ont dit « on t'aime ». Et ça, pour n'importe quel coming out, de nommer l'amour, c'est ce qui est le plus précieux. Donc, ça a été un combat, une épreuve qui s'est bien terminée. Là, mais c'est, pour moi, ça a quand même été très impliquant. Émotionnellement, là, ça m'a coûté.
Mais c'est beau quand tu dis, mais c'est comme, en fait, j'ai ramené ça à l'humour, mais c'est comme des petits rodages avant d'arriver à la générale avec mes parents.
C'est complètement ça. Puis tu sais, en faisant ton rodage, tu t'ajustes. Puis tu sais, je me rappelle, c'est drôle, la première fois, j'ai dit gay. Après ça, j'ai dit homosexuel. Je pense que j'ai essayé de trouver le bon mot. Mais c'est ça, c'est comme...
Il y a un humoriste, je ne sais pas c'est qui parle du coming out de sa sœur. Puis... Elle disait pas rodage, mais tu sais, je pense que sa sœur, la première personne à qui elle a dit, c'était la grand-mère Alzheimer. Puis elle a checké sa réaction, puis elle a fait « OK, faut pas que je le dise demain ». Fait que tu sais, la grand-mère l'a oublié, fait qu'elle s'était pratiquée au moins une fois à quelqu'un avec qui ça n'avait pas d'impact.
Il y a un roman de Nancy Houston, je te dis ça parce que c'est vraiment un flash super brillant. Oui. Ça s'appelle Dolce Agonia. C'est un Thanksgiving aux États-Unis. C'est comme une grosse famille. Là, je me rappelle qu'on voit la mort de tous ces personnages-là. C'est comme une grosse saga. Puis on voit toutes leurs. Un peu comme dans Six Feet Under, tu sais, qu'on voit toutes leurs qualités. Puis il y a une femme qui a de l'Alzheimer. Puis elle rentre dans la pièce, elle voit son mari qui est décédé. Elle crie ah! Et là, elle s'en va pour alerter, puis elle oublie. Par monte, puis elle fait ça genre 5 fois. C'est comme 5 chocs. Elle vit comme 5 chocs à chaque fois de voir son mari décédé, puis elle l'oublie entre-temps. Je trouvais ça tellement fort. Je trouve tellement que c'est une bonne scène.
Oui, c'est très drôle. C'est très triste et très drôle. C'est ça que t'aimes ça.
J'aime. C'est les deux. C'est triste et c'est drôle à la fois.
Est-ce que tu te rappelles ton dernier fou rire, Simon?
Ah, oh, j'en ai à chaque jour. C'est vraiment j'ai le rire facile. Puis moi, ce qui est triste pour moi, c'est que quand je suis avec des amis et que je ris, j'ai pas de tonus. Fait que je m'écroule. Tu sais, je peux tomber à terre dans un éclat de rire. Tu sais. Fait que j'ai tendance à me retenir après les gens quand je ris. À l'école, les gens, pour m'écœurer, ils se tassaient. Tu sais, juste pour me faire je m'éjarrais sur tout le monde. Et que maintenant, ben là, il faut que je rieste.
Là, c'est tough là, avec la distanciation. C'est vraiment la colonne. Toujours répète une colonne.
Près d'une colonne ou assis. Donc, là, je peux rire assis.
T'es tellement généreux. T'es tellement une bonne personne. Simon, pour vrai, là, c'est un grand plaisir. Là, j'aimerais savoir, qu'est-ce que tu souhaiterais pas à ton pire ennemi?
Ah!
Fait que c'est fin parce que tu seras pas méchant, mais qu'est-ce de méchant tu souhaiterais à personne, même quelqu'un que t'aimes pas?
Mon Dieu! Je souhaite pas grand-chose de... Écoute, je pense pas que je souhaite quelque chose de méchant à personne. Attends, répète-moi la question, excuse-moi, c'est...
Qu'est-ce que tu souhaiterais pas à ton pire ennemi? Qu'est-ce que tu ne
souhaites pas? Être malheureux, je trouve que... Tu sais, on est dans un... De plus en plus, je trouve que notre société est polarisée, surtout aux États-Unis, là, évidemment, mais quand même, je trouve qu'avec tout ce qui se passe, même au Québec aussi, on est de plus en plus polarisé. Puis malgré tout, malgré le fait qu'il y a un fossé parfois entre nos convictions, puis j'ai l'impression que rapidement, on en vient à souhaiter, je dirais pas à dire souhaiter la mort, mais souhaiter que l'autre soit malheureux dans ses décisions, ouais. Tout ça. Je trouve pas que... Je suis partisan de, on peut l'attribuer à plein de monde, mais « if you shine, I shine ». Je suis de ceux qui croient à ça, c'est-à-dire que si ta vie va bien, la mienne, ça n'écrase pas ma vie. Donc, la joie de quelqu'un ne va pas ternir la mienne. Donc, j'ai envie, je souhaite vraiment que les gens soient dans la joie le plus possible. J'ai l'impression que ça nous contamine. On se contamine quand on se tire vers le haut collectivement. Donc, même quelqu'un qui ne partage pas mon regard sur... mettons, la COVID-19 ou, mon Dieu, peu importe, la politique ou même l'art, l'importance de l'art. Tu sais, il y en a pour qui l'art ne devrait pas être subventionné, mettons, puis je ne partage pas cet avis-là. C'est pas le fossé qu'il y a entre eux ou entre lui et moi ou entre elle et moi qui va m'empêcher de vouloir prêter, irradier de joie sur cette personne-là aussi, tu sais. Et je dis ça, et pourtant, quelque chose dont je suis vraiment pas fier. Il y a quelques années, il y a un garçon qui était très, très méchant avec moi au secondaire est décédé. Il y a eu un accident et ma première réaction, ça a été d'être soulagée. J'ai fait « Ah! » Puis là, j'ai fait un examen de conscience sur ma réaction. Le fait d'être comme si on délestait d'un poids, alors que ça faisait des années que je le côtoyais pas, puis qu'il ne. Tu sais, il pouvait même pas me harceler dans mes rêves. Là, il faisait même plus partie de mon quotidien. Je me disais, comment ça que je me sens quand même délesté, comme si je demeurais le petit gars, le petit Simon de 15 ans, qui a quand même le sentiment qu'il se fait écraser par l'autre. Puis j'ai pas aimé ça, ma réaction. Ouais. Tellement que j'ai commencé à écrire mon prochain roman, ça traite de ça, ça commence comme ça. J'apprends la mort de mon bully secondaire et finalement, parce que c'est un roman, donc je traficote un peu. Puis le personnage, donc ce Simon-là, mon double, finit par donner un atelier de littérature dans la classe de son fils. Il apprend que c'est son fils qui est en train de coacher. Puis dans le fond, il devient comme le mentor d'écriture de ce petit jeune-là. Parce qu'il voit un grand potentiel chez son fils. Puis pour moi, ça correspond à ce que je veux dire dans la vie présentement. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on ne lègue pas de la haine comme ça. Je pense qu'on peut briser la chaîne. Parce que je pense que c'est le travail de l'humain de briser cette chaîne-là, parce que sinon, à quoi bon vivre? Donc, de mettre de la joie puis de la lumière là-dedans le plus possible. Donc, brisons le cercle de la haine.
On ne souhaite pas de malheur à personne. C'est magnifique. Simon, on tire à notre fin, mais... Pour toi, cette année, qui a été ou qu'est-ce qui a été ta découverte?
Écoute, tu sais, je prends en t'en nommer deux. Tu sais, une politique, Kamala Harris, pour moi, je la trouve profondément, profondément inspirante. Pour tout ce qu'elle représente, je la trouve éloquente, je la trouve belle, je la trouve. Elle m'inspire beaucoup. Puis j'ai l'impression que. Je ne sais pas jusqu'à quel point qu'elle va avoir un impact incroyable, mais j'ai l'impression qu'elle nous fait croire que c'est possible. Et ça, je trouve ça beau. L'élan, le vent de fraîcheur qu'elle apporte, puis l'importance qu'elle semble pouvoir jouir. On a l'impression que Joe Biden va lui donner beaucoup de responsabilités, puis j'ai l'impression que c'est beau pour la suite du monde. Donc, Kamala Harris, puis d'un côté très ludique et personnel, Ariel Charest, la fille qui fait des lip-syncs. Pour vrai, là, cette fille-là me fascine. J'ai beaucoup d'admiration. J'ai lu, moi, un de mes auteurs préférés, c'est Michel Tournier. Et Michel Tournier, dans un essai, il parle du génie. Et il dit une chose magnifique. Il dit que le génie, ce n'est pas un diamant donné à quelqu'un. C'est un diamant qui a été pulvérisé et tout le monde en reçoit une parcelle. Donc, on peut avoir du génie dans la façon que tu es étalagiste, dans la façon que tu place la nourriture dans les sacs quand tu es emballeur à l'épicerie. Tu peux avoir du génie dans la façon que tu places les aliments avec, comme un Tetris. Je pense encore à un Tetris.
D'accord, Mario,
tout très bien ça. Mais aussi, je pense qu'Ariel touche au génie dans sa façon de s'accaparer la musicalité de quelqu'un. Elle comprend tout et toutes les intentions sont d'une...
Les expressions faciales est tellement bonne.
Moi, je trouve que c'est ça. Elle touche au génie, véritablement. Ouais. Et j'ai eu la chance en direct de Nuvac. Elle m'a pastiché. Elle avait fait un lip-sync à partir d'un truc que j'avais fait. Puis j'étais tellement content. Donc, pour moi, c'est une de mes belles découvertes. Puis je suis content que la pandémie nous l'ait révélée parce que c'est vraiment un phénomène, cette fille-là. Donc, puis là, tu sais, je la cite en exemple, mais pour moi, il y a plein de gens qui ont une parcelle de génie comme ça. C'est-à-dire dans quelque chose qui n'est pas nécessairement quelque chose qu'on valorise, mais je pense vraiment qu'il y a des gens qui ont du génie dans plein, plein de domaines et c'est louable.
C'est magnifique. Je te dis, là, je pourrais t'écouter me parler pendant des heures. Je trouve ça tellement beau, le petit diamant qui éclate, puis chacun a une parcelle. C'est beau de voir de la beauté. Quelqu'un peut placer bien les aliments. Le vidangeur peut bien penser à comment écraser ses trucs pour faire plus de maisons en aller vider. Je trouve ça magnifique. On est rendu au moment où c'est la question de mon dernier invité que j'ai reçu. C'était Mathieu Pepper, qui écrit entre deux draps, que tu as repartagé en disant « c'est donc bien beau ».
Hey, Mathieu, c'est bon. C'est bon. Je trouve ça tu sais, moi, j'en écoute beaucoup de télé, puis j'étais un peu difficile, tu sais, il n'y a pas grand-chose qui me... Il y a même des affaires qui me déçoivent quand même. J'ai l'air de t'aimer, puis c'est vraiment pas le cas. Tu sais, maintenant, présentement, la chose qui me rend le plus heureux, c'est les Baronesses. Je sais pas si tu connais Baronesses Von Sketch, là, au Canada. C'est des filles qui font de l'humour. Hey, Anne-Elisabeth capoterait là-dessus. Pour vrai, c'est des filles drôles. J'arrête pas de me dire, Anne-Elisabeth, t'as mis au Canada anglais, elle fait partie de cette gang-là, là.
Ah ouais?
C'est des filles drôles, puis bright, puis déniaisées, puis... Fait que moi, ça faisait longtemps que j'avais pas ri fort en regardant des scènes au Québec. Pour vrai, il y a plein d'affaires qui me font rire, mais là, ça, je trouve que c'est bien écrit. Je trouve ça tellement bien écrit. C'est des scènes étonnantes, puis c'est plein de tendresse aussi. Donc, j'ai vraiment gros coup de cœur pour Entre deux draps.
Mathieu Pepper demande, oui? Est-ce que tu préfères voir tes écrits interprétés par des acteurs ou plutôt que les gens puissent se faire leur propre idée?
Oh, hey, bon.
Tu as aussi écrit pour la télé, tu sais, fait que c'est pour ça, des fois... Oui.
Écoute, encore une fois, je vais être poche, mais j'aime vraiment les deux. J'aime sincèrement les deux. C'est-à-dire que j'aime comment l'intelligence d'un acteur, l'intelligence émotionnelle d'un acteur qui va s'approprier. Et moi, j'aime vraiment l'idée de s'approprier un texte. C'est-à-dire que si ça ne. Moi, j'ai pas de scrupules par rapport à ça. Si, mettons, la façon que j'ai écrit ma phrase ne te va pas bien. Il y a des gens pour qui ça achoppe parfois. Je préfère que tu la retweaks pour que ça sonne, que ça de la swing.
Ouais.
Donc, je fais confiance à l'intelligence émotionnelle de l'acteur qui peut adapter ou, tu sais, pour bien comprendre l'essence de la réplique. Puis, évidemment, essayer de la dire telle qu'elle. Mais j'aime aussi beaucoup l'intimité de la lecture. C'est-à-dire que la bulle, quand tu lis un livre, là, puis que tu es... justement, je prends pleurer au fond des mascottes. Puis que tu lis, je me fais de la petite pub en même temps.
C'est parfait.
Puis entendre la musique dans ta tête, ça n'a pas de prix non plus. Donc, j'aime vraiment cet équilibre-là entre avoir la... être un peu chauve, mais pas chauve, mais t'sais, être vraiment fier, je pense, un peu d'entendre des comédiens de talent dire ton texte, puis en même temps avoir le caissier de l'épicerie qui lit. Moi, je me rappelle quand j'étais un de mes premiers lancements, il y a une femme qui lisait déjà tous mes livres et je faisais quoi dans la vie? Je suis esthéticienne. Ça m'avait tellement rendu heureux de savoir qu'une esthéticienne, alors que je me sens loin de ça, c'était reconnu dans ce que j'écrivais, puis elle m'entendait, je t'entends quand j'aime ta voix. André, j'ai l'impression que je prête ta voix. Ça me rend hyper heureux, ça. Donc, les deux.
C'est quoi? Ça me dérange pas que ça soit les deux. Je suis très heureux de ça. Et là, Simon, on termine avec ça, mais c'est à ton tour de poser une question à ma prochaine invitée.
Alors, elle a déjà dit, Mariana, que la joie ostentatoire, comme la mienne et la sienne, polarisait beaucoup les téléspectateurs. Alors, comment gère-t-elle les commentaires disgracieux sur son énergie à la télévision?
J'ai assez hâte d'entendre ça. C'est pas comme si j'avais déjà tourné avec Mariana et que je sais déjà la réponse, mais quand même! Hey Simon, merci, tu as été super. Je retiens le mot « vélocité », Docteur Mario.
Oui.
Beaucoup d'autrices que je vais aller me procurer leurs livres. Et est-ce que tu peux me répéter le compte des dames que tu as découvert? Comment elles s'appellent?
Baroness Von Sketch.
Baroness Von Sketch.
C'est pour CBC. C'est ça? C'est Gem, en tout cas. C'est comme le Tout TV ou le Radio-Canada en anglais. Pour vrai, là, Anne-Elisabeth va capoter sa vie. C'est drôle.
Je vais lui passer le message. Je te remercie infiniment. Ma mère t'embrasse officiellement. Et je vais lui dire que tu es un fan de Dr. Mario. Merci Simon, c'était un plaisir.
Un plaisir.
Merci.